France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Sarcellopolis, c'est le titre d'un essai que signait en 1964 l'écrivain prolétarien Marc Bernard, alors journaliste au Figaro. Une commande de son journal sur le phénomène des grands ensembles, publiée par Flammarion, pour laquelle Marc Bernard avait quitté Paris et sa demeure délabrée de la rue Saint-Jacques pour vivre 3 mois dans l'un des appartements tout confort d'un immeuble de la ville alors toute neuve de Sarcelles. « Ville tombée du ciel », écrivait Marc Bernard. Un demi-siècle plus tard, c'était ce titre, « Sarcellopolis », que reprenait Sébastien Descartes-Heide en marchant dans les pas de l'écrivain pour un documentaire de Sur les docks qui explorait l'histoire de Sarcelles, le premier et le plus vaste des grands ensembles de France. Que s'est-il passé au fil des années à Sarcelles? Qu'est devenue la ville pilote que l'on avait rêvé laboratoire de notre modèle républicain? Comment les tensions, l'hostilité se sont-elles avec le temps insinuées dans les plis de ce qui fut longtemps une coexistence chaleureuse entre juifs rapatriés d'Algérie, maghrébins, arméniens, espagnols, portugais, turcs, antillais, entre tous les déracinés qui ont fait Sarcelles depuis la fin des années 50. Si le documentaire que nous allons entendre ne prétendait pas répondre définitivement à ces questions qui dépassent le seul cadre de Sarcelles, entre les paroles des habitants de Sarcelles, pionniers pour certains de la ville nouvelle, il faisait entendre quelques débuts de réponse à ces questions et surtout le regret de devoir se les poser. Sur les docks, Sarcellopolis, une émission de Sébastien Descartes-Heide et Nathalie Salle, diffusée le 7 octobre 2015 sur France Culture.
Les Sarcellois étaient tous des immigrés de quelque part. Et donc ils ont construit cette ville ensemble. En la construisant ensemble, et ben, ils ont créé une identité commune et un sentiment d'appartenance. Ça a pris du temps, mais il s'est installé quand même. Et aujourd'hui, on sent autant Sarcellois que certains se sentent parisiens ou d'autres bretons.
Il y a, par exemple, sur le commerce à des palettes, il y a des scènes qui sont marrantes parfois. C'est quand il y a un reportage qui ne plaît pas à toute la ville. Et là, bizarrement, il y a des jeunes, il y a des juifs, des musulmans, des noirs, il y a tout le monde, etc. Ils sont tous ensemble en train de parler du reportage. T'as vu comment ils ont parlé de nous? T'as vu? Ouais, exactement. Non, c'était. Et là, c'est des scènes super marrantes. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout à Sarcelles, c'est que les gens, ils sont chauvins de leur ville. Ils sont très fiers de leur ville. On l'est de moins en moins petit à petit, mais on a eu une culture où on était très fiers de notre ville parce que Sarcelles, ça a toujours été un observatoire pendant des années, depuis la création des grands ensembles. Donc. Les anciens, ils nous ont transmis cette chose-là de voilà, regardez, on nous surveille, regardez Sarcelles, ce qui se passe ici, ça se répercute ailleurs. C'est des points qui nous rejoignent, c'est des avis qui nous font se rejoindre. Ou des fois, quand il n'y a plus d'avis du tout, quand c'est que de la rigolade. Alors là, on est tous ensemble. Hein. Mais le seul endroit où vraiment, 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 on est unis et tous ensemble, c'est sur la place de France. Il n'y a pas d'autre endroit à Sarcelles où vous trouverez tout le monde ensemble. Donc pourquoi, je ne sais pas. Je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas vous dire. Mais moi, mon hypothèse, c'est des points communs. Des points communs dans la journée, des points, des avis communs, etc. Parce que c'est le plus gros problème, encore une fois, c'est le problème israélo-palestinien. En dehors de ça, même sur la politique à Sarcelles, ils sont d'accord, les gens.
Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Sarcelles, à 15 km de Paris, sur la route d'Amiens, un grand ensemble qui prévoit la réalisation finale de 10 000 logements. On est à peu près à la moitié de l'opération. Les arbres, voyez-vous, sont encore tout jeunes.
Mais il faut avoir présent à l'esprit l'appel de l'abbé Pierre, vous vous souvenez, à Paris, où il disait que des gens mouraient de froid encore dans les rues en 54 à Paris. il y avait un réel besoin de loger correctement et dignement les gens, quoi. Et donc, il se trouvait que Sarcelles était sur la ligne de chemin de fer qui relie à la gare du Nord, donc facile pour les travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail. La gare de Sarcelles-Garges n'existait pas. C'était une simple halte, on pouvait même pas acheter son billet là, il fallait aller à Pierrefitte, qui elle est une très vieille gare. Et donc ça permettait aux personnes d'aller travailler à Paris en 25 minutes, qui à l'époque était rien du tout. Et donc cet endroit où nous sommes maintenant, bah, c'est, y avait rien, c'était des vergers, des terres agricoles. À l'époque, ça coûtait pas cher. Et les bâtiments, donc c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a mis tout ça en branle, quoi. Et c'est comme ça qu'est né le grand ensemble. Sarcelles, de par sa configuration, c'est des bâtiments, un centre commercial, une école. Donc, on leur a donné des numéros, le centre 1, le 2, le 3, le 4. Il n'y avait même pas de nom, d'accord ? Même les rues, au début, elles n'avaient pas de nom. Il y avait un bureau exprès où, quand on cherchait l'adresse d'un copain, il fallait dire, je crois que c'est par là. Et on dit, ah oui, alors, c'est tel... Voilà. On regardait sur un plan l'adresse des gens, il n'y avait pas de nom. Bon, référez-vous au film Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin, parce que la première scène du film est très intéressante. Il sort de prison, il arrive à Sarcelles, il ne reconnaît plus rien.
Tout de même pas rasé ma cabane. Ginette m'aurait écrit. Elle, dire que j'avais acheté ça pour les arbres et puis pour les jardins. Ils appelaient ça la zone verte. C'est devenu New York, la zone verte.
Sarcellopolis. Un documentaire de Sébastien Descaraïbes et Nathalie Salle.
La population qui vient à Sarcelles vient de différents horizons.
Monsieur Cole, maire de Sarcelles, septembre 61.
Et au moment où elle arrive, n'est-ce pas, ce sont des gens qui viennent de chambres d'hôtel, d'îlots insalubres, un peu de province, beaucoup de Paris, un petit peu de tous les coins, et des rapatriés également, en particulier d'Afrique du Nord. Et il est évident, n'est-ce pas, que pour eux, c'est un changement total de vie. Et par conséquent, ils ne trouvent pas tout de suite à Sarcelles ce qu'ils désireraient, ce que théoriquement ils devraient avoir. Mais au bout de quelques temps, je crois qu'on peut prendre l'exemple de ceux qui sont déjà depuis un certain temps, l'adaptation se fait. Et précisément, c'est également un problème, et c'est là où les équipements culturels vont jouer leur rôle, c'est qu'il s'agit de mettre en contact toutes ces familles qui se trouvent, pour ainsi dire, isolées au milieu de la foule.
Et donc, les vagues d'immigration qui sont venues, bon, c'était donc d'abord les Parisiens, et puis ensuite, il y a eu les rapatriés d'Afrique du Nord.
Nadine Delarue.
Ensuite, il y a eu la communauté aussi arménienne, vous avez eu la communauté asiatique, vietnamienne, ensuite africaine, maghrébine, etc., etc. Il y a des Chiliens, oui. Je vous dis, le monde est un Sarcelles. C'est pas compliqué, c'est pas juste une petite phrase comme ça lancée en l'air, c'est la réalité.
André Naoum.
Moi, je suis arrivé ici en 1962, après être parti de Tunisie, où j'ai été médecin, donc... et chef de service à l'hôpital Charles-Nicolle, qui est un des plus grands hôpitaux d'Afrique du Nord. Et le hasard a fait que j'ai trouvé Sarcelles et je me suis installé à Sarcelles. Voilà. C'était une cité nouvelle où il y avait des appartements. Donc les gens qui n'avaient pas où aller venaient là. Il n'était pas facile à obtenir les appartements, mais enfin, une fois qu'on l'avait, on se trouvait dans une ville nouvelle où allait se créer une société nouvelle. Faite avec tous les gens qui venaient d'ailleurs. Les HLM, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, était très beau, avec tout le confort moderne, surface centrale, salle de bain, chose que beaucoup de gens ignoraient, hein. Parquet en bois, bon, c'était bien, très bien. Et puis voilà, puis j'ai réussi à créer mon cabinet médical et je l'ai créé.
Qu'est-ce qui fait que vous étiez très heureux à Sarcelles ?
D'abord, on était logés, ce qui est pas mal. Ensuite, il y avait une société multiculturelle, multiethnique, multisociale. Tous les ingrédients étaient là pour faire quelque chose de bien. qu'on espérait. On espérait être une vitrine, une espèce de vitrine de la France.
Il y a quand même un phénomène assez étonnant à Sarcelles, c'est que le brassage des races et des origines est tel qu'il n'y a pas de racisme à Sarcelles.
Marie-Hélène Pinel, écrivain, novembre 1974.
Alors là, j'ai longuement interviewé des institutrices qui ont des gamins en face d'elles et qui sont toutes très nettes là-dessus. Il se trouve que le garçon de 12 ans, qui est juif, est très copain avec la petite arabe de 13 ou 14 ans et que dans un autre pays, ils devraient s'entretuer. Or là, ils s'aiment énormément.
Mais la raison essentielle, c'est peut-être parce qu'ils sont tous des déracinés dans cette ville.
Alors là, vous posez le problème de l'identité sarcelloise. Hein. Ils sont au départ déracinés. Ce sont des gens qui sont venus de partout, sans point d'appui, et qui ont constitué une identité à partir de leur, finalement d'un destin commun qu'ils avaient. Il y a eu au départ une période très difficile, ça a été le chantier. Bon, et ils ont été confrontés à des problèmes considérables. Ce qui a été un élément de soudure et de relation très, très profonde à ce moment-là. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne choisit pas d'habiter Sarcelles. On a été placé à Sarcelles. Hein. Et s'y sont retrouvés des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et qui finalement, face à des problèmes importants de vie quotidienne, enfin, il n'y avait pas de boulanger au départ, des choses aussi bêtes que ça, ont réagi collectivement pendant un temps au moins. Et se sont liés des relations qui n'auraient pas dû se lier. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de racisme à Sarcelles.
Ce qu'il faut insister sur le non-communautarisme, ça le gros truc. C'était pas une ville de communauté. Il y avait différentes personnes venant de différents pays. Moi, j'avais d'excellents amis musulmans, italiens, turcs, parce qu'il y avait aussi une communauté de Turcs qui étaient en fait des ouvriers, ceux qui construisaient la ville. Et alors, quand ils étaient malades et qu'ils venaient me voir pour se faire soigner, alors, monsieur, vous... Et ils avaient juste deux mots à dire, Turco, Tinet. Ça veut dire, je suis turc et je travaille à l'entreprise Tinet. Ou alors il y avait les Espagnols qui m'ont appris à parler espagnol. Alors je suis devenu el médico que habla espagnol. Bon, j'avais des Italiens, mais ça, la langue, je la connaissais déjà. Si vous voulez, bon, ça ouvre un petit peu l'esprit, ça. Ça ouvre l'esprit. On est en contact avec des gens qui viennent. Je vous dis, je n'allais pas. Si, j'ai voyagé, mais je n'ai pas visité le monde. Mais le monde est venu à moi, grâce à Sarcelles.
Ah ben bonjour, on est content de vous accueillir.
Bonjour.
Paco, c'est François en espagnol.
Ah ben ouais. Mes parents sont d'Andalousie, Malaga.
Oui, ben moi aussi, je suis d'origine espagnole, mais du côté de mon père. Enfin, c'était il y a longtemps, quoi. Ses ancêtres, ils sont partis et ils ont fui l'Inquisition. C'est Farad, pareil, ça veut dire espagnol.
Et vous êtes d'où ?
De Tunisie. Allez, que les vagas viennent.
Vous êtes arrivé parmi les premiers dans la communauté juive, comment ça s'est passé ?
Oui, tout à fait. Enfin, pas le premier, mais parmi les premiers. Oui. Nous sommes arrivés avant l'émigration des gens d'Algérie. Parce que les Algériens sont venus en 62. L'exil, le grand exil, c'est 62. Donc, quand nous sommes arrivés là, moi je suis arrivé, il y avait déjà un petit noyau. Il y avait quelques familles déjà, il y en avait pas mal. Il y a un monsieur qui s'appelait Cohen Saban, Zaki Cohen Saban, qui était le tout premier à faire un office religieux à Sarcelles, dans son appartement. Il habitait avenue Paul Valéry. Et quand je suis arrivé, on a voulu faire une espèce de bureau, non pas de la communauté, parce qu'il n'y a pas de bureau de la communauté, mais du centre culturel et cultuel, quoi. Une espèce d'annexe du consistoire. Et là, nous avons créé le bureau de direction du rite juif à Sarcelles. Le mot communauté est récent. On ne disait pas la communauté. Il y avait un bureau qui dirigeait le culte israélite à Sarcelles. Donc, c'est très important. Ce n'est pas du communautarisme, c'est uniquement une organisation qui réglait les problèmes religieux.
Pourquoi c'était important d'avoir ses propres lieux et pourquoi...
Parce que ce n'était pas un ghetto. Ce n'était pas dans un ghetto. C'est une ville où les gens avaient des religions différentes, des musulmans, des protestants, catholiques, bouddhistes, chacun pratiquait à sa façon. Et puis, on était tous les citoyens d'une même ville.
Thank you. est-ce que tu peux d'abord te présenter?
Donc, je m'appelle Michel Abdebreman. Je suis originaire de la Caraïbe, comme on dit les Antilles, donc de l'île de la Guadeloupe.
Tu peux nous raconter ce que c'est que le baby-dom? Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler avant, et quand je discute avec les Antillais, à chaque fois, ils m'en parlent.
Le concept du baby-dom, donc, c'était de venir prendre de la main-d'œuvre dans les îles pour pouvoir reconstruire la France d'aujourd'hui. Et donc après, ça a été élargi sur les autres îles, donc comme la Guadeloupe, la Martinique, en Guyane. Mais derrière ça, ce qu'ils disaient pour pouvoir convaincre les familles de laisser partir leurs enfants, c'était loin de la réalité. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui a vécu ça. Et ce monsieur me disait que lui, quand il est venu, donc on lui a promis du travail, un logement. Déjà, il m'a dit, il est arrivé à l'aéroport. Personne. En plus, il est arrivé en plein hiver. Donc, il y avait de la neige. Donc, il n'avait jamais vu la neige. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Qui doit venir me chercher? Donc, rien du tout, quoi. Donc, il m'a dit, il a pris un car. Parce qu'il a juste vu des Noirs qui partaient dans une direction. Donc, il a suivi le mouvement. Donc, de Roissy jusqu'à la banlieue. Donc, à l'époque, c'était vers Bondy, tout ça, je crois, qui les ramenait. Donc à un moment, le chauffeur les a fait descendre en plein dans un au milieu de nulle part. Et après de là, y a une dame noire aussi qui était déjà venue par le biais du baby-dom, je pense, qui est venue à sa rencontre. Et donc il l'a dirigé vers un foyer. Et donc il est resté là pendant des jours et des jours, sans savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Donc après, il a cherché à rencontrer d'autres personnes. Issu de la Caraïbe. Il a commencé à faire des petits jobs par-ci, par-là, parce qu'il y avait déjà une communauté afro-caraïbéenne déjà installée dans les banlieues, dont la ville de Sarcelles, à l'époque. À Sarcelles, c'était beaucoup d'immigrants de la Caraïbe, quoi.
Bonjour, Tati.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Ça va bien, écoute.
Je suis en train de faire un petit nettoyage comme d'habitude.
Je vois, oui. Est-ce que tu peux nous faire un peu visiter?
Oui, je veux bien.
C'est gentil.
Là, ça commence, hein, les légumes commencent. Alors là, il y a la salade verte, il y a les carottes, il y a les poivrons, il y a du piment des Antilles, il y a du cive, il y a de la blette, enfin, il y a un peu de tout. Ici, c'était un désastre, c'était vraiment, vraiment, vraiment sale hein, pour devenir comme ça. Alors, on a lutté, j'ai fait une petite cabane, on l'a brûlée une première fois. J'ai refait encore une autre cabane et comme ça, là, je suis tranquille. Je passe tout mon temps dans mon jardin.
On a l'impression d'être un peu aux Antilles.
Ah
ici.
Oui, ça, c'est pourquoi j'aime bien ce coin, parce que ça me rappelle des Antilles. On respire de l'air, on se repose, il n'y a pas de bruit, tandis que dans les HLM, ce n'est pas ça du tout. On n'entend personne crier dans sa tête, on est tranquille. Si on veut se reposer, on se repose. Si on veut faire son petit jardin, on le fait tranquillement. Et puis, ça va.
Et ici, c'est aussi un endroit où vous pouvez vous retrouver en famille.
En famille.
Bon, ça va faire maintenant presque une vingtaine d'années que ça existe, le jardin, quoi. Donc le jardin, c'est aussi un lieu qui regroupe toutes les personnes originaires de la Caraïbe, de l'Afrique. Donc on va dire que c'est le lieu afro-caraïbéen dans un bout de la France. Parce que ça reflète un peu la vie du pays, donc les cases en tôle, cultiver la terre, élever des animaux. Bon, là, il n'y a pas d'animaux, mais on l'imagine. Ouais, il y a des poules, ouais. Mais il y a des renards qui les mangent. Non, donc voilà. Donc le jardin, c'est un lieu de détente, c'est un lieu de retrouvailles, c'est convivial. Il y a pas mal d'événements familiales qui se passent là, donc autour d'un barbecue. Ça peut être aussi autour d'une journée musique. Chez nous, il y a la musique traditionnelle, le groka. C'est des joueurs de tambour, donc on appelle ça les roses. Donc c'est un attroupement de musiciens, de chanteurs locaux qui chantent des chants, qui racontent aussi l'histoire de nos ancêtres, comment les choses se passaient, comment les gens vivaient. Donc en fin de compte, c'était la musique des esclaves. Donc voilà, donc nous on a hérité de tout ça et bon, on essaye de le faire vivre autant qu'on peut et de le transmettre aussi aux générations à venir. Plus d'une trentaine d'années maintenant, 33 ans que je vis en métropole, à Sarcelles même. Donc depuis 81, ouais, à peu près. Donc lorsque mes parents sont venus nous rechercher sur l'île.
C'était quoi tes premières impressions quand t'es arrivé à Sarcelles ?
Moi ? Ouh là là ! Moi je suis arrivé, les premières choses qui m'ont marqué, c'est le changement de climat, quoi. Ça c'est un truc, c'est malade. Donc après, j'ai découvert les ascenseurs. Alors là, ça, j'étais comme un nouveau-né, on va dire. Hein. On découvre des choses. J'avais quoi ? J'avais 7 ans. La vie en hauteur aussi, parce qu'on habitait dans un grand bâtiment de 10 étages. On était au 3e étage. Et déjà, rien que le 3e, pour moi, ça semblait super haut. J'avais le vertige. Donc j'ai mis des mois à aller sur le balcon. Donc moi j'ai grandi avec tout le monde, hein. Juifs, chrétiens, voilà. Donc c'est vrai que, je parle plus des religions, puisque aujourd'hui maintenant tout est basé là-dessus. Donc la relation humaine, elle est presque inexistante. Et moi je trouve dommage que les gens justement se servent de ça pour pouvoir mettre une distance entre eux, quoi. Alors qu'autrefois, on s'en foutait, quoi. Tout le monde était ensemble, l'autre allait manger chez l'autre. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. C'était un plaisir, justement, de parler de la culture de chacun. Donc c'était à travers la gastronomie, la musique. Mais c'était vraiment convivial, quoi. La vie, elle était simple. Voilà, elle était simple. Les gens ne se regardaient pas de haut en bas. Ouais, mais celui-là, pourquoi il s'habille comme ça ? Non, tout le monde vivait sa vie, c'est tout. On s'invitait entre voisins. Avant, on pouvait laisser les portes ouvertes, quoi. On pouvait laisser la clé à son voisin. On pouvait, voilà, c'est des choses qui se perdent.
C'est parti, doucement, doucement. Bien joué, doucement, Dylan, doucement, doucement, doucement. Ok.
Moi, le collège où j'allais autrefois, qui est le collège Évariste Gallois, donc à Sarcelles, maintenant on va, c'est plus les enfants noirs et arabes qui sont dans les établissements maintenant, quoi. Donc les enfants français, de souche française, asiatique ou autre, faut les chercher. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc il n'y a pas de diversité, quoi. Aujourd'hui, ils mettent des jeunes professeurs qui sortent des écoles. et qui ne sont pas formés pour pouvoir faire un travail comme il faut dans les zones sensibles, comme ils disent. C'est former les gens, c'est tout. Arrêter d'envoyer des bleus pour faire un travail pour lequel ils sont pas, ils ont pas les épaules, quoi. Ils sont pas préparés. Moi, pour moi, les professeurs, ils sont déstabilisés, quoi. Et ils appellent les familles au secours. Mais ça ne résout pas le problème. Voilà.
1, 2, 1, 2.
Pour la concession, vous voulez 20, 30 ou 50 ans?
Oh, pour l'éternité.
Ah, c'est pas possible. Je vais noter 50 ans. Vous avez une préférence pour la place dans le cimetière?
Tant que je suis avec des musulmans comme moi, ça me va.
Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a certains carrés juifs, bouddhistes, militaires dans le cimetière, mais pas encore de carrés musulmans. C'est un problème de place. Il y a sûrement une bonne raison.
De toute façon, je veux voir le maire.
Mais le maire ne reçoit que les chefs religieux. Moi, je ne suis pas maire, et puis toi, tu n'es pas...
Imam. Hein? Non, juste un habitant de cette ville depuis 1964. 40 ans. Il est mort.
Qui?
Celui-là. Le nerf a été sectionné en 1964. Un accident de travail à la gare. On a mis 3 ans pour la construire. Il n'y avait que des bicots et des Portugais. Il n'y avait pas une tête de Français. Et aujourd'hui, les Portugais, ils votent. Et Malouf, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien.
Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter?
Alors, moi, c'est Ossine. Je suis militant associatif à Sarcelles et je suis militant au sein d'un collectif qui s'appelle RESUS, au niveau national. C'est le réseau des énergies des zones urbaines sensibles. Et on promouvoit les actions des jeunes et des gens de banlieue dans le champ médiatique français, les journaux, etc.
Est-ce qu'il y a une communauté musulmane à Sarcelles?
Il faut savoir que même en tant que musulman, il y a même des associations vietnamiennes musulmanes, des associations turques musulmanes. Donc oui, il y a une communauté musulmane qui a plein de branches, comme la communauté juive a plein de branches, comme la communauté catholique et chrétienne ont plein de branches à Sarcelles. Et ouais, il y a plusieurs cultes. Et la communauté musulmane est une des plus grosses à Sarcelles. Ouais. Avec la communauté juive et la communauté assyro-chaldéenne. La communauté musulmane, elle doit représenter entre 15 et 20 000 personnes, à mon avis. Je pense pas, ouais, parce que c'est le tiers de la communauté sarcelloise. Et il y a 5 ou 6 mosquées à Sarcelles réparties dans chaque quartier. C'est plus des petites mosquées. La grande mosquée, elle est au marché de Sarcelles. Et voilà, hein, y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants, il y a des pratiquants moyens. Il y a de tout. Hein. Par contre, la communauté musulmane, elle est très, très, très cosmopolite à Sarcelles. Chose qu'on ne voit pas ailleurs. Souvent, par exemple, si vous allez aller dans une ville comme Asnières ou Gennevilliers, la communauté musulmane, elle est à forte population marocaine. Vous allez aller à Saint-Denis ou Stein, la communauté musulmane, elle est à forte population algérienne. Vous allez aller à Marseille, la communauté musulmane, elle est à forte population algérienne et comorienne. Mais bizarrement, à Sarcelles, non. Il y a des Indiens, il y a de toute l'Asie, jusqu'au Moyen-Orient, il y a toute l'Afrique, il y a beaucoup de reconvertis. Donc le prêche dans la plupart des mosquées se fait en français à Sarcelles. Donc ça va, c'est assez ouvert.
C'est un peu à l'image des musulmans dans le monde finalement.
Exactement, ouais, exactement. Et c'est pour ça que, ouais, faut pas voir mal la communauté musulmane à Sarcelles. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'intégrisme à Sarcelles. On le ressent pas en tout cas. Et même si on a eu, hein, parce qu'on peut pas tout savoir, même si on a eu, je pense qu'on le coupe à la racine directement. C'est une ville très surveillée, etc. Ça se passe très bien.
Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton installation à Sarcelles?
Alors moi, mon installation à Sarcelles, ben en fait, je suis né à Saint-Denis et j'ai fait mes 3 premières années à Asnières. Voilà. On habitait dans un taudis, dans un appart, un genre de squat, on payait plus loyer, donc on devait partir du jour au lendemain. Et j'avais un oncle qui habitait à Sarcelles, qui nous a fait venir en une nuit comme ça. Donc j'ai débarqué à l'âge de 4 ans, 87, 88. Et voilà, depuis... J'ai fait toute ma scolarité à Sarcelles, j'ai eu mon bac à Sarcelles, puis voilà.
Tu peux nous dire un peu dans quel quartier tu as grandi?
Alors moi j'ai grandi dans le quartier en face du centre commercial et la clinique. Donc c'est ce quartier qu'on appelle un petit peu la petite Gaza, il est juste en face de la petite Jérusalem. On l'appelle Little Gaza parce que c'est vraiment l'opposé entre les deux quartiers. Il y a une rue qui nous sépare et rien à voir. On est passé de notre jeunesse où on vivait mais comme ça, mais très 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 proche de la communauté juive. On faisait même pas de distinction. On était dans les mêmes collèges, les mêmes lycées. On grandissait ensemble. Nos parents y gardaient leurs enfants, etc. Il y avait plein de choses qui se passaient. On prenait le goûter chez eux. Et fin 90, il y a eu la création des écoles privées à Sarcelles. Des écoles privées juives. On a créé une peur dans les écoles, comme quoi il y avait de l'antisémitisme, etc. Il n'y avait pas ça. Mais dès que les médias et les politiques s'immiscent trop, un peu trop dans la vie des communautés et la vie des sociétés, ben on voit le résultat que ça donne. Hein. Je pense, ça c'est mon avis après, hein, c'est qu'une hypothèse.
Quand on fait la queue au supermarché pour passer devant la caissière, il arrive qu'on se salue un peu, qu'on se dise un mot, comme ça. On se parle au café aussi, vous voyez, il y a des gens ici, on n'est pas hostile, ni personne n'est contre personne. Mais les gens sont refermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais parler de la communauté israélite, c'est un fait que le milieu ultra-orthodoxe qui a pris possession de ce secteur de la ville est assez refermé sur lui-même. Je dis, moi-même, je ne suis pas tout à fait ou admis, je ne suis pas chez moi, quoi. Donc ce n'est pas une question d'appartenance, on ne dit pas les juifs ou la communauté juive, on dit le milieu ultra-orthodoxe qui vit entre soi. Alors il y a X synagogues, X, il y a les écoles, mais c'est un monde auquel j'ai très peu accès, malgré mon âge, malgré mon ancienneté, malgré ce que je suis. Finalement, je n'intéresse pas beaucoup ces gens-là, parce qu'ils vivent dans une... J'imagine que c'est exact dans les autres milieux ethniques, où il y a des milieux qui sont refermés sur eux-mêmes. Je pense que ça doit être pareil chez nos amis musulmans, où il y a des gens comme moi qui sont... Ils sont musulmans, mais ils sont comme tout le monde. Et il y en a d'autres qui sont resserrés entre eux. Ça doit être pareil également, un peu moins peut-être chez les Chaldéens. Les Chaldéens, ils ont brûlé leur vaisseau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voilé. Ils construisent leur avenir à Sarcelles. Donc ils sont là pour rester. Et ils sont chez eux, et ils sont ouverts aux autres. D'abord parce qu'ils tiennent des cafés, des restaurants, ils sont artisans, ils ont davantage de contact avec la population multiforme, n'est-ce pas ? Donc c'est peut-être eux qui seront le... c'est les gens qui vont finalement marquer le plus la ville, à mon sens.
Tu vas bien ?
Bon, oh, quoi de neuf, là ?
Ça bosse.
C'est dans le milieu.
Tout à fait.
Maximum. Voilà, c'est le drapeau chaldéen. Sur la... Ouais. Eh ben. Donc tu fais à manger des boissons.
Des desserts.
Du café le matin.
C'est pour les gens de notre communauté, parce qu'on est une grosse communauté ici, donc pour les gens de ma communauté, bon, ils voient chez Massimo, moi Massimo c'est pas mon vrai prénom,
Philippe,
c'était mon nom, moi c'est Philippe à la base, donc les gens quand ils voient chez Massimo, ils sont pas, ah bah tiens, un prospectus comme un autre, on déchire, on jette à la poubelle, là justement, ils voient le petit drapeau chaldéen, c'est juste le petit plus qui va faire que, voilà, là on va ouvrir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a, et voilà, là on sait que c'est quelqu'un de la communauté, je l'ai pas fait en gros, c'est vraiment un petit icône quoi, juste histoire de...
Moi, j'ai de toutes les communautés qui viennent manger chez moi. J'ai des musulmans, j'ai des juifs, j'ai des gens de ma communauté. Voilà, j'en fais pour tout le monde. Ma viande, elle est halal, tout le monde peut manger halal. Je fais du poisson pour les gens qui ne mangent pas de viande aussi. Je fais de tout, je me suis diversifié. Comme ça, tout le monde peut venir manger chez moi. Et voilà, ça peut être un lieu de rencontre pour tout le monde, puisque tout le monde peut être là. Donc voilà, moi au final, tout le monde est le bienvenu. Hein. Je fais en sorte que tout le monde puisse être le bienvenu aussi. Voilà.
Malgré ça, tu as eu parfois quelques difficultés qui m'avaient
raconté. Bah en fait, si vous voulez, il y a des gens qui mangent halal, il y en a d'autres qui mangent cachère, par exemple. Voilà, ceux qui mangent cachère ne viendront pas manger, pas forcément. Mais bon, il y en a d'autres, voilà, parce qu'on vend de l'alcool, ils veulent pas forcément être servis ici. Bon, après, moi, comme j'ai dit, j'en donne pour tout le monde. Ceux à qui ça pose un problème, je vais pas pouvoir régler le problème puisque c'est mon gagne-pain aussi. Donc, je vais pas aller me priver ou priver certaines personnes pour... Je travaille pas comme ça, on va dire. J'essaie d'en donner au maximum pour tout le monde. Voilà. Je fais ce que je peux.
Qu'est-ce que vous pensez de cette ville et comment vous y sentez ?
Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait ma vie ici, j'ai travaillé ici. Mon commerce, il est ici, j'ai été à l'école ici, j'ai tout fait ici. Donc, voilà. Moi, ma vie, c'est ici, hein. Après tout. Voilà, moi, quand je vais boire un café, je fais chez mon frère, chez mon cousin. On est très communautaire, on est tous ici. Donc, voilà. Moi, Sarcelles, je suis né ici. Il y en a qui ont une mauvaise image de cette ville-là. Moi, personnellement, je suis pas atteint. Hein, parce que je vais dans toutes les cités, à gauche, à droite. Personnellement, moi, ça change rien pour moi. J'ai jamais eu de problème. Et puis, voilà, je suis bien ici, personnellement. Mes parents, ils habitent Sarcelles depuis 80... Allez, peut-être 86, 85. Moi, je suis né en 88, je suis né Sarcelles. Ah, comme je vous ai dit, j'ai fait toute ma vie ici, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Hein. Je pense pas. J'aime bien, je m'y sens chez moi. Nous, nos anciens, ils aimeraient bien repartir, et nous, on est bien ici, on a le confort, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Eux, ils ont été habitués à tout, donc voilà. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes générations et tout ça. C'est pas la même chose. Après, Risco, ouais, il pourra vous dire, lui qui est né là-bas, il connaît beaucoup mieux que nous, ça.
En général, j'ai l'impression que la plupart des Chaldéens, ils ont, entre guillemets, brûlé leur bateau en arrivant ici. Il n'y a pas la possibilité de revenir.
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Chaldéens, ils ne pensent plus jamais y retourner. Mais quand même, il y a une nostalgie qui est inscrite dans eux. Et d'ailleurs, nos parents ou nos frères et sœurs, les plus grands qui ont vécu là-bas, ils en parlent sans cesse. Ils parlent toujours de la vie au village. Mais c'est deux mondes différents quand même.
Vous avez un livre ici, ça peut être quel livre ? Oui, c'est la Bible. Alors, c'est écrit encore en chaldéen, en araméen, dans la Bible, une phrase. Donc, je vais vous lire la phrase. Aneïwen, orcha, ou hakouta, ou chaye, la nasha, ate, l'gebit, babi, illa, enbi.
Ça coupe pas.
Voilà, non, c'est une phrase de l'évangile de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père, sinon par moi. Ok.
On se trouve dans l'église Saint Thomas. C'est la deuxième église en France. Puisqu'on a une autre église chaldéenne qui s'appelle Notre-Dame de Chaldée. Mais Saint Thomas, c'est la plus grande. Et elle porte le nom de Saint Thomas tout simplement parce que c'est Saint Thomas qui est le saint patron de l'église d'Orient. Avec deux de ses apôtres qui ont évangélisé les Chaldéens directement au temps de Jésus.
Qu'est-ce que ce lieu évoque pour toi ?
Il représente aussi, bien sûr, une forte spiritualité de l'Église d'Orient, dans laquelle bon, chaque dimanche on participe à la messe. Et aussi, beaucoup nos parents, quand même. Parce que c'est avec leur force, quand même, que ce lieu a été construit.
Et l'adaptation, elle a été facile à l'époque, quand vous êtes arrivé dans les années 80
La première nuit où je suis passé en France, c'était à Sarcelles, à l'avenue du Nez. Il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, vraiment. Ça, moi, je m'en souviens très bien. Par exemple, il y avait mon oncle qui habitait à Saint-Brice, qui était déjà arrivé dans les années 84, et qui nous avait Jésus chez lui sans se poser de questions. Même si on était 15 dans la maison, ça ne les dérangeait pas plus que ça, quoi.
Risco, finalement, qu'est-ce que ça représente Sarcelles pour toi ? On a parlé de l'église et tout, mais qu'est-ce que ça représente Sarcelles pour toi ?
Ben, il y en a qui disent que c'est la capitale des Assyro-Chaldéens en France. Et d'une certaine manière, c'est vrai, parce que vraiment toutes les activités de la communauté se font à Sarcelles. Et en plus, on a le maire de Sarcelles qui nous aide énormément. Sarcelles, c'est vraiment un peu l'identité maintenant des Chaldéens. Avant, il y avait beaucoup d'Assyro-Chaldéens à Clichy-sous-Bois. Et là-bas, ça n'a pas marché. Ils ont tous déménagé. Parce que, en fait, ça, l'avantage de Sarcelles, c'est que, c'est une grande ville. Déjà, c'est aussi une ville où elle accueille énormément d'autres communautés. Et en plus, c'est là aussi qu'il y a eu des opportunités. C'est au niveau professionnel, mais aussi pour l'église. Donc, tout s'est fait à Sarcelles. Au tout début, tous les Chaldéens, vraiment la grande majorité, travaillaient dans le textile, dans la confection. Parce que, tout simplement, en Turquie, ils connaissaient ce métier. Ils ont ouvert des ateliers, ils ont eu des contacts avec des populations qui faisaient déjà ça, du travail à Paris au chantier, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ben, la confection, ça a chuté. Avec notamment l'arrivée des Chinois qui ont cassé énormément les prix et aussi avec la mondialisation. Et ben, en tout cas, le textile, la confection, ça a permis de rebondir dans d'autres activités. Et ben, le café, c'est, ben, je dirais pas que c'est pas compliqué, quoi. Du moment qu'on a un peu des notions de gestion, qu'on est voilà, chaleureux, qu'on a un peu d'argent, ben, on ouvre un café. C'est aussi simple que ça. Et en plus, c'est un business qui rapporte, il faut dire la vérité.
Vous connaissez, c'est quelle lettre celle-là? C'est quelle lettre en chaldéen? C'est quelle lettre en chaldéen? Oui, bah oui, c'est Alab. Bon, c'est un majuscule, hein, c'est un peu différent par le si vous connaissez. Ici, c'est Alab. Et l'autre ici, aussi, c'est un majuscule, vous ne le connaissez pas trop, c'est. Hein? C'est laquelle? C'est Alab et Tao.
Culturellement parlant, en fait, il se passe une chose. En France, on a continué à parler l'araméen. D'ailleurs, on continue toujours à le parler. Enfin, en tout cas, ma génération, ils savent parler correctement, sans problème. Mais ça a tendance à se perdre. Après, au niveau de la culture, on va dire culture de manière générale, c'est le contraire. Tous les jeunes Chaldéens ont une connaissance plus importante de leur culture ici en France que quand on était en Turquie. Enfin, moi, quand j'étais en Turquie, les Assyro-Chaldéens, je ne connaissais pas du tout. Alors qu'en France, bon, grâce aux associations et à l'Église, l'histoire de notre peuple depuis les origines jusqu'à maintenant, elle est mieux su que quand on était en Turquie. Parce que quand on était en Turquie, c'était interdit.
On peut quand même dire que l'intégration, elle est réussie, complètement réussie, en deux générations.
En tout cas, si on parle d'intégration, je pense que c'est totalement réussi. Puisqu'en fait, les Chaldéens, on a directement... Enfin, la France nous a adoptés, mais nous aussi, on a adopté la France. C'est-à-dire, par exemple, moi, aujourd'hui, je me sens totalement français, plus que turc.
Il y a une gestion sociale par les musulmans, comme ça peut exister chez les juifs ou chez les chaldéens. Est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire que, par exemple, l'un des rôles aussi de la communauté, c'est entre guillemets de ramener les brebis galeuses et d'avoir un peu un contrôle sur ses ouailles.
Alors ça, c'est ce qui est fait dans deux mosquées que je connais bien, c'est celle des Rosiers et celle du Centre 2 par les deux imams. Ils parlent super bien français, ils sont assez jeunes, etc. Donc c'est plus facile pour eux et c'est vrai qu'ils ont réussi à beaucoup de choses dans les quartiers. Et là, ça continue et ça continue de manière exponentielle et c'est très bien. Ouais, il y a ce travail-là, mais il y a aussi un travail social et humanitaire sur le côté, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de nourriture et qui ont des faibles moyens aussi s'y retrouvent à la mosquée. Puisqu'ils peuvent être aidés par la communauté, ils peuvent avoir de la nourriture, ils peuvent trouver un toit. Les personnes, on voit qu'en France, il y a plein de migrants qui arrivent en ce moment, on le voit à Paris, etc. Bah, à Sarcelles, on les reçoit dans les mosquées, on essaie de les aider, etc. C'est vrai que ça se fait plus de manière communautaire, ça veut dire que si c'est un Malien, c'est plus les Maliens qui vont l'aider, etc. Mais en tout cas, il trouvera la communauté. Et dans le travail social dans les quartiers, bah, il commence à Sarcelles. Il commence, c'est ça qui est bien. Avant, on dirait qu'il y avait de la retenue. Les mosquées trouvaient que c'était pas leur rôle. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient ils avaient fauté peut-être à un moment donné. Que le travail de l'imam, il ne s'arrête pas dans la mosquée. Le travail de l'imam, il n'est pas employé par la mosquée, mais par la communauté. Et quand on dit la communauté au lieu de la mosquée, ben, ça agrandit son champ de travail.
C'est une communauté qu'on peut dire structurée aussi, finalement.
Ouais, qui commence à se structurer, ouais. Elle l'était déjà depuis longtemps, mais trop conventionnée avec des collectivités, des financements, etc. Au jour d'aujourd'hui, elle devient de plus en plus autonome, surtout celle du Centre 2. Et c'est très bien. Parce qu'on pourra mieux aider les membres de cette association, parce que c'est une association à la base.
Ici gare Sarcelles, dortoir des grands de la banlieue nord. Les Lascars parlent Lascars.
Comprendre, c'est pourquoi concrètement la vie dans les quartiers s'est dégradée. Qu'est-ce qui a fait que que voilà, vous vous sentez moins bien loti aujourd'hui qu'hier.
Il y a moins d'écoute. Il y a moins d'écoute. C'est la meilleure des réponses que je puisse donner. Il y a moins d'écoute. Il y a un laisser à l'abandon. Mais la vie dans les quartiers, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, dans mon quartier, en tout cas, il n'y a rien. Et à l'époque, il y avait. Je sais pas, on avait en état tiré. Il y avait le centre de loisirs, il y avait plein de choses. Aujourd'hui, les jeunes de 7 à je sais pas quel âge, mais c'est aussi la faute des parents et de tout le monde. Hein.
Le fautif, c'est le système mis en place, c'est tout. Donc ça fait depuis mes 20 ans que je fais du socio-culturel. Mais c'est un métier qui perd un peu de force parce qu'on ne l'alimente plus. Quand on parle de zones sensibles, de zones qui ont besoin de moyens, et c'est pas forcément l'argent. On nous enlève des choses, pourquoi ? Donc des choses qui sont censées apporter justement pour développer une meilleure société et former justement des bons citoyens pour demain, quoi. Et aujourd'hui, on peut pas le faire parce que on a le système abandonne. Il s'intéresse pas au peuple. Moi, pour moi, il y a un désintéressement, quoi. Les gens sont là à nous regarder parce qu'on est noir, parce qu'on est maghrébin. Mais comme je le dis, nous, on n'a pas demandé aux gens de faire tout ce qui a été fait, quoi. Ils ont ramené les gens dans les métropoles. Voilà, on est des citoyens comme tout autre citoyen et c'est tout. Donc on doit avoir les mêmes moyens que partout. Moi, je peux pas me sentir intégré dans un système qui fait tout pour que les choses régressent, quoi.
Tout ce qu'il y avait à l'époque, il n'y a plus aujourd'hui. En fait, à Sarcelles, on avait beaucoup d'organisations associatives qui... Par exemple, les gymnases des quartiers, c'était ouvert toutes les vacances et les soirées. C'est-à-dire que les jeunes, ils pouvaient, pendant les vacances, avoir déjà accès à plusieurs sports qu'ils ne connaissaient pas. Chaque gymnase était dédié à un sport. Même des sports que les jeunes n'aimaient pas. Donc ça nous poussait à faire ce sport-là. On a fait du badminton, du ping-pong, on a fait des sports qu'on n'aurait jamais touché de notre vie. Et en fait, ils ouvraient tous les gymnases, ils nous envoyaient même à la piscine pour 1 franc à l'époque. Et aujourd'hui, la piscine, elle coûte 3 euros et quelques. On a dû payer un petit de notre quartier la dernière fois parce que tous ses potes, ils pouvaient y aller, lui, ils ne pouvaient pas y aller. Il n'y a aucune association dans les quartiers, il n'y a plus rien. Sarcelles, c'est la seule ville de plus de 35 000 habitants qui n'a pas de cinéma. Ça n'existe pas en France. Même les villes de 6 000, 7 000 habitants, elles ont un cinéma. Nous, on n'en a pas. On n'a pas de bibliothèque. On n'a pas de centre culturel. On n'a rien. Alors que c'est la ville peut-être la plus culturelle des années 80 en France. Même en dehors du rap, il y a des écrivains, il y a des réalisateurs, il y a des films qui ont été tournés avec Jean Gabin, avec plein de monde de toutes les générations. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à Sarcelles. Et c'est un gros problème. Il y a un problème quelque part. C'est pas les gens. Mais quand on dit ça, on nous prend pour des fous.
Sarcelles gare 11h, le soleil brille. Je me lève tard, tant pis, chercherai du taf lundi. J'allume ma stéréo sur du Itso. Le temps de regrouper mes idées avant ma série préférée. Je vais me doucher, déjeuner et mettre mon nouveau Lacoste pour flamber. Qu'est-ce que je vais encore foutre de ma journée? Les
bécanes. Il y a le forum des Cholettes. Bah, il est là, mais il est délabré, il est laissé à l'abandon. Il y a le parc Kennedy aussi, avant et après. Faudrait voir le parc Kennedy et voir des photos d'avant pour voir la différence.
Donc pourquoi ce Forum des Chouettes, il est aussi important chez Sarcelles?
Parce que pour nous, c'est le lieu. On a eu le goût à la culture et au spectacle, on l'a eu grâce au Forum des Cholettes. Si vous voyez des Ministères Hammer, des Stomy Bugsy, etc., toutes ces créations sarcelloises qui existent en France et ailleurs, et ben c'est grâce au Forum des Cholettes. C'est ce qui nous a donné le goût à la culture, c'est ce qui nous a donné goût au spectacle, à tout, parce qu'on a vu toutes sortes d'expositions. Et en fait, toutes les écoles y passaient au moins 3-4 fois dans l'année. Et nous, on y retournait aussi avec nos parents, et on y retournait encore avec nos amis, parce que c'est un centre culturel avec une salle de je sais pas combien de places, une salle de cinéma, une salle de spectacle, avec des expos tout le temps. En fait, ce qui était bien à l'époque à Sarcelles, c'est qu'ils avaient compris que la jeunesse, elle avait faim. Elle avait faim de quelque chose. Et si on ne lui donnait pas goût à quelque chose, et ben elle irait manger ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans toutes les banlieues. Dès qu'on a plus goût à la culture, goût au divertissement. Parce que dans les quartiers, il n'y a plus d'amusement. Dès que c'est les vacances, il faut trouver de quoi s'amuser à Sarcelles. C'est ça le problème. Donc on cherche nos occupations. Au Forum des Chouettes, on avait ces occupations-là. Pour 2 francs, t'allais voir un film. Plus qu'une occupation, on y avait goût. Même si on avait autre chose à faire, on voulait aller au Forum des Cholettes. Toutes les organisations de la ville, elles se passaient là-bas. C'est-à-dire qu'on devait s'y retrouver. Quand ça a fermé, il y a une grosse différence dans la ville. Voilà, toutes ces organisations qui étaient là pour divertir les gens, pour ne pas les laisser tomber dans une certaine routine. Alors que quand il y a du divertissement, quand il y a de la culture dans la ville, et ben là, ça fait voyager ces jeunes-là ou ces familles-là. Quand elles rentrent du boulot après 7 heures du taf, après 2 heures de transport et faire la bouffe pour les gamins, etc., ça fait du bien de sortir en famille. Mais à Sarcelles, on peut sortir nulle part. Donc voilà, c'est pour ça que ce forum, il manque énormément. S'il y avait ce forum ou ce centre culturel-là, petit à petit, au bout de quelques temps, ça aurait fait un effet domino, ça aurait changé les choses. En tout cas, on aurait pu éviter plein de choses à Sarcelles.
On est des chiens, on fout la merde dans ton hall. Rien à foutre, ton taf, ton rock'n'roll. Nos grolles sur les murs, on trouve ça drôle. Nos morales, pas de morale. On vit comme des hommes, on fait des trucs de chiens. Nous sommes comme nous sommes, nous ne sommes de rien. On fait peur aux passants, parce qu'on a la rage. Escalier ou ascenseur, nous on vit en cage. On bouge en meute, on a les crocs, on survit des meutes. Accro au danger, tu flippes quand tu nous jettes. On parle fort, on a bouffé nos muselières. Tu nous détestes, on a croisé ta muselière.
C'est quoi d'ailleurs ce... Pourquoi c'est pas un croissant, un je sais pas quoi.
C'est un carré ou un rectangle dans un coin du cimetière avec les tempes tournées vers la Mecque.
Bon, c'est tout.
Ah ben c'est déjà beaucoup pour moi.
Si tu votes contre les caméras, je t'assure que tu auras ton carré de musulman.
Ok, tu m'aides, je t'aide.
Mais je peux pas te garantir la nationalité des asticots, hein.
Ça, les baouches, c'est pas un problème, je vais les importer du bled.
T'es contre quand tu veux.
Moi, j'ai grandi dans cette ville. Je suis pratiquement née, même si je suis née dans une autre ville cosmopolite qui est Marseille.
Sophie Jacquet, conseillère municipale, janvier 2006.
Et Sarcelles, lorsque j'y ai grandi, on vivait effectivement les uns avec les autres. Au fur et à mesure des années, et de politique clientéliste, il faut le dire, eh bien, les gens ont vécu entre eux, communauté, même si je n'aime pas ce terme, et donc se sont retrouvés autour d'identités comme ça, qui auparavant étaient plutôt un lieu d'échange, des moments d'échange, et qui sont devenus, au fil du temps et au gré des problèmes sociaux, Sarcelles est quand même l'une des 5 villes les plus pauvres de France, donc je pense que ça aussi, ça n'est pas neutre dans l'évolution des choses et dans la dégradation des relations des uns avec les autres.
La situation actuelle pose problème à beaucoup de gens, c'est sûr. Qui reste à Sarcelles ? Reste à Sarcelles les gens qui sont obligés de rester pour différentes raisons. Alors, il y a des raisons comme moi où, à mon âge, on ne va pas changer de vie et de machin et tout, surtout dans une ville qu'on a contribué à fonder. Chez les Juifs vont rester ceux qui ont des raisons, c'est-à-dire la synagogue, les commerces cachers, l'école juive, les écoles de la yeshiva. Donc, ceux-là resteront, ils ont des raisons de rester. Chez les musulmans, je pense qu'ils resteront également ceux qui ont des raisons de rester. Les autres s'en vont. Dans la communauté juive, les gens partent. On est beaucoup moins nombreux qu'on l'était il y a 20 ans. Il y a les raisons d'abord de proximité, il y a les questions qu'on n'aime pas ici les problèmes qu'il peut y avoir au niveau scolaire, au niveau des risques de tension entre les différentes ethnies. Je ne dis pas communauté, je dis ethnie. Hein. Donc c'est vrai que les gens partent. Le danger, c'est ça. C'est que ne resteront que les gens qui sont... très attachés à leur tradition ancienne, ancestrale, notamment religieuse. Il y a le danger.
Sarcellopolis, avec Fatima Idamou, Ossine Rass, Nadine Delarue, André Naoum, Tati Marianne, Michel Abderrahman, Massimo et Riz Cocas. Documentation INA, Véronique de Saint-Pastou. Documentation musicale, Antoine Villose. Extrait, Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil et Voisins voisines de Malik Chibane. Prise de son, Yann Frécy et Romain Luquiens. Attaché d'émission, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Sébastien Descaraïdes. Réalisation Nathalie Salle.
cette émission a été diffusée la première fois, le 7 octobre 2015, sur France Culture.